plus profond des ondes. Histoire mystérieuse et extraordinaire, nouvelles et fictions imaginaires, enquête sur d'étranges affaires. Bonsoir, bonsoir, chers auditeurs de CFM. Au programme, le secret des ondes soignantes. Ne vous trompez pas de fréquence. Et une histoire insolite signée Olivier Delon, le frelon. Le secret des ondes soignantes. Que ce soit par l'effet placebo ou la visualisation thérapeutique, l'action de la pensée sur les cellules malades n'est plus à démontrer. Mais certaines images sont plus parlantes que tous les résultats d'analyse et de mesures instrumentales. Ainsi peut-on voir sur le net, par exemple, la disparition en temps réel d'une tumeur cancéreuse de 8 cm de diamètre. La scène se passe dans un hôpital de Pékin. Une caméra vidéo filme en plan large l'écran de l'échographie, l'infirmière plaçant la sonde sur le ventre d'une patiente atteinte d'un cancer de la vessie et les trois thérapeutes qui psalmodient un mantra, tout en se concentrant mentalement sur la tumeur. Cette dernière est visible en live sur la partie droite du moniteur et en photo échographique prise au début de l'expérience sur la partie gauche afin de mesurer un éventuel changement. en 2 minutes 40. Le timecode faisant foi, la tumeur se résorbe en totalité. Cette vidéo hallucinante a été montrée pour la première fois en Europe au cours d'une conférence donnée à Milan par Greg Braden. Concepteur de systèmes informatiques pour l'aérospatial, cet ingénieur est surtout célèbre pour ses ouvrages grand public comme « L'éveil au point zéro » ou « La divine matrice ». Cette vidéo, à la diffusion plus ou moins autorisée par le gouvernement chinois, n'est, selon Braden, que l'illustration d'un pouvoir sur la matière et le temps dont chacun de nous dispose. Et de telles expériences auraient produit le même effet instantané à des milliers de kilomètres de distance, les thérapeutes s'étant alors concentrés sur une simple photo du malade et du problème à traiter. L'exemple que j'ai vécu à titre personnel, la guérison d'un zona par téléphone en 1984, n'a rien d'exceptionnel, dit l'auteur de cet ouvrage, comme je l'ai cru à l'époque. Si l'on admet la réalité du phénomène pékinois, reste à s'interroger sur son origine. La force de la prière, bon, soit. Le désir d'aider un malade conjugué avec sa volonté de guérir, certes. Les vibrations du mantra, d'accord. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il se passe? Que dit ce mantra chinois, au fait? Déjà parti, déjà accompli. En d'autres termes, les thérapeutes psychiques, plutôt que d'entreprendre de soigner le cancer, ont choisi de le nier. Du moins de se comporter comme si la tumeur n'avait jamais existé. En émettant les pensées et ressentant les émotions résultat d'une telle situation, écrit Greg Braden, ils provoquèrent un nouveau résultat, une possibilité quantique en accord avec leurs croyances du moment. En 2 minutes 40, cette nouvelle croyance se matérialisa. Alors, méthode Coué? C'est le principe même de la médecine quantique. Notre conscience crée la réalité. L'information génère l'énergie, et l'énergie engendre la matière. Donc, l'énergie capable de réinformer la matière. Autrement dit, en décidant avec suffisamment de force que le problème n'existe plus, eh bien, on le supprime. Voilà pour le fond. La forme à présent. Comment l'indication non-existence de la tumeur se communique-t-elle à la dite tumeur pour l'amener à disparaître? Nous entrons là dans le plus fascinant débat sur la biocommunication que la science de pointe ait ouvert, l'énergie pensive. Alors, on va tâcher de faire simple. Tout part de la résonance de Schumann. En 1950, le physicien allemand Wilfried Otto Schumann postula que tous les organismes vivants, des plantes à l'être humain, entraient en résonance sur une même fréquence vibratoire égale à 7,83 Hz, un chiffre qui est le produit de la division de la vitesse de la lumière dans le vide par la circonférence du globe terrestre. Ouais, je sais, c'est un peu compliqué. Il fallut 10 ans pour réussir à mesurer réellement toutes ces émissions et la réalité donna raison à l'intuition de Schumann. Quand Cliff Baxter communique mentalement avec ses plantes vertes, c'est sur cette fréquence que cela se produit. Même chose pour la transmission de pensées entre humains ou animaux et pour l'échange d'informations entre les cellules d'un organisme. À l'intérieur de notre cerveau, cette fréquence de 7,83 Hz se situe à la frontière entre les ondes de θ, de 4 à 7 Hz, qui correspond à la relaxation profonde en plein éveil, accessible aux méditants expérimentés, et les ondes alpha, de 8 à 13 Hz, relaxation légère, éveil calme, régulant notre créativité, notre stress, notre système immunitaire. Dans le cas de la tumeur chinoise, dématérialisée par la pensée, on serait en droit de conclure que tout s'est joué sur cette fréquence d'onde électromagnétique. Ouais, mais... En 1990, le professeur Giacomo Grimberg-Silberbaum, neurophysiologiste, a placé deux sujets en méditation relaxante, onde alpha, dans deux cages de Faraday éloignées l'une de l'autre. Rappelons ici que les cages de Faraday ont la propriété de stopper les ondes électromagnétiques. En voyant au sujet A des stimulations sonores ou électriques à l'insu du sujet B, il a constaté que ce dernier les recevait pourtant lui aussi en temps réel. Une communication entre les deux cerveaux existait donc en dehors de tout signal électromagnétique. Question. Quel était son moyen de transmission? Eh oui, là on flotte en plein mystère. Eh bien, ce sont les ondes scalaires. Il s'agit d'un bruit de fond permanent en provenance du cosmos, reçu et retransmis par l'eau en mouvement, les roches, les végétaux, les animaux et les humains. C'est l'inclassable physicien Nikola Tesla qui, dans les années 1900, fut le premier à mettre en évidence ce rayonnement, à définir ses propriétés et à tenter de le reproduire au moyen d'une machine. Son but, fournir à l'ensemble de la planète une énergie sans fil, inépuisable et gratuite. Très belle perspective. Mais raison qui amena son sponsor, le banquier M. Morgan, à lui couper tout crédit et le gouvernement américain à saisir ses travaux après sa mort. Enfin, c'est ce qu'on dit. Officiellement, le FBI de Edgar Hoover déclara qu'il n'avait laissé ni archives ni projets en cours. Quel menteur! On sait ce que valent les affirmations de ce parano qui essaya pendant 25 ans de persuader la Maison-Blanche qu'Albert Einstein était un espion soviétique. Enfin bref, le rêve de Tesla était d'utiliser les pylônes de transmission énergétique mis au point, selon lui, par les Égyptiens, pyramides, obélisques, et par les Celtes, menhirs, dolmens, pour transformer et diffuser l'énergie de ces ondes scalaires dont il connaissait les propriétés, soutenait-il. Car Tesla était partisan de la thèse des anciens astronautes, ces extraterrestres de l'Antiquité qui auraient fourni leurs secrets technologiques à nos premières grandes civilisations. Croyance qui permit d'ailleurs à son brillant concurrent, M. Thomas Edison, qu'on ne présente plus, de détruire son image dans la communauté scientifique et de précipiter sa ruine. Mais ces inventions, certaines du moins, lui survécurent. Par exemple, le moteur électrique à induction, le courant alternatif, les lampes à fluorescence, la radiotélégraphie. Le seul hommage que la postérité ait rendu à ce génie mort sans héritier, c'est de donner son nom à une récente voiture électrique, lui, qui avait fait rouler en 1931 une Pierce Arrow équipée d'un moteur à convertisseur d'énergie gravitationnelle. Bah ouais, et tout cela, ben, c'est passé à la trappe. Alors revenons sur ces fameuses ondes scalaires. Porteuses de neutrinos échappés du Soleil, elles sont reçues et réémises, on l'a dit, par tout ce qui est vivant sur Terre, formant un véritable maillage qui unit les règnes et les espèces. De nature électrique, elles progressent dans l'espace en vortex et non en sinusoïde comme les ondes électromagnétiques. Susceptibles de dépasser la vitesse de la lumière, elles se nourrissent en outre de tous les champs d'énergie qu'elles traversent. Et résultat? Eh bien, la différence des ondes électromagnétiques, dont la force diminue avec le carré de la distance, elles dégagent plus de puissance à l'arrivée qu'au départ, et peuvent donc alimenter un moteur en produisant davantage d'énergie qu'elles n'en consomment pour le faire fonctionner. C'est la solution énergétique de l'avenir, non polluante, inépuisable et potentiellement gratuite. Évidemment, on a mis tout cela en sommeil. Le rêve de Nikola Tesla est donc le cauchemar des plus grandes multinationales, et ben oui, est en passe de devenir réalité. Mais bridons nos fantasmes. Ce n'est pas demain que les ondes scalaires remplaceront le pétrole, le gaz, le nucléaire et l'électricité verte. La transition énergétique est là pour protéger avant tout, il faut pas se leurrer, hein, l'économie des grandes puissances et la pollution lucrative derrière les beaux discours de la bonne conscience. Nos gouvernements veulent bien sauver la planète, mais pas au détriment de ses exploitants. Money, it's money. En revanche, il est un domaine où les ondes scalaires sont d'or et déjà opérationnelles, celui de la santé. Reçues et renvoyées par le cerveau au moyen d'un champ de torsion, elles sont qualifiées d'énergie pensive par des scientifiques comme Thomas Berden, Dominique Moret, Jacques Collin ou Hervé Janecek. Une telle énergie psychique serait bel et bien, affirme ce dernier, à l'origine de la transmission de pensées. Il n'est pas plus idiot ni ésotérique de développer ses dons de télépathie que de regarder la télévision, écrit-il. Dans les deux cas, il s'agit d'un échange d'ondes entre un émetteur et un récepteur, sauf que la nature des ondes est différente. Électromagnétique dans le cas de la télévision, scalaire dans le cas de la télépathie. Capable de transmettre des informations mentales plus ou moins bien interprétées, d'un bout à l'autre de la planète à la vitesse de la lumière, comme l'ont reconnu quasi officiellement le président Jimmy Carter et l'armée américaine. Ces ondes scalaires seraient-elles le vecteur des guérisons à distance? Question. Reprenant les travaux de Nikola Tesla, le physicien allemand Constantin Meil a mis au point 100 ans plus tard un générateur à deux antennes pour recevoir et rémettre ces ondes scalaires d'une manière moins aléatoire et mieux contrôlable que celle employée par le cerveau humain. Plus besoin du don, entre guillemets, de l'entraînement, et de la concentration psychique de thérapeutes comme ceux qui ont détruit la tumeur de Pékin. La machine du professeur Meil semble arriver au même résultat. Lors de trois sessions d'expérience, Heidelberg en 2012, Madrid et Université de Brescia en 2013, cet appareil a réussi à détruire des cellules cancéreuses en culture. Voici le mode d'emploi. Vous placez 3 millions de cellules malignes sur l'antenne réceptrice de l'appareil et vous y ajoutez de l'eau oxygénée, ce qui en tue le tiers en 10 minutes et la totalité en 24 heures. Dans le même temps, vous disposez entre les deux antennes 3 autres millions de cellules cancéreuses, mais cette fois-ci sans aucun ajout de poison oxydant. Phénomène incroyable. Elles vont s'autodétruire au même rythme en 24 heures. Conclusion, le message ondulatoire des cellules mourantes peut être transmis par la voie d'un champ scalaire à des cellules cancéreuses en pleine prolifération et ainsi inhiber leur croissance comme le ferait une action directe utilisant la radiothérapie ou la chimiothérapie, mais sans dommage pour les cellules saines. Intéressant. Guérir le cancer sans effet secondaire par incitation au suicide des cellules cancéreuses. Intéressant. Une excellente nouvelle pour le patient, une catastrophe, vous en doutez, pour l'industrie médicale et pharmaceutique. On suivra donc avec intérêt les tests en cours. La phase actuelle de la recherche consiste à prélever et disposer sur l'antenne réceptrice un échantillon de sang du sujet en lieu et place d'une culture de ces cellules cancéreuses, ce qui simplifie évidemment la manipulation. Et vérifier si, lorsqu'on lui réinjecte le sang ainsi traité, l'information d'autodestruction des cellules cancéreuses se propage jusqu'aux métastases. Ce serait une révolution médicale dont on espère la confirmation. D'ores et déjà, des rémissions spectaculaires auraient été constatées en plaçant un volontaire, déclaré par la médecine en phase terminale, incurable par chimio ou radiothérapie, entre les deux antennes du générateur d'ondes scalaires. Sur l'antenne réceptrice, on a simplement disposé des extraits de cellules jeunes, animales ou végétales, qui semblent réinformer les cellules malades du patient pour qu'elles se corrigent. Le générateur de Meil coûte à peu près 7000 euros. Dans une fourchette comprise entre 10 000 et 200 000 euros, d'autres systèmes non linéaires de diagnostic et réinformation cellulaire sont proposés aux médecins. D'année en année, ils sont de plus en plus nombreux à suivre des séminaires de formation en ces appareils issus pour la plupart de la recherche allemande, système Mora ou de la recherche russe, système Métatron ou américaine, découverte de la NASA sur les pathologies liées à la pesanteur. Alors, à l'heure actuelle, on constate que les Chinois rachètent une grande partie de ces brevets fondés sur la biorésonance. Baptisé en général système quantique pour le sérieux du message publicitaire, Ces appareils, dont l'efficacité ou l'esbroufe se vérifie très vite, ne sont finalement qu'une application high-tech des principes millénaires de la médecine et de l'acupuncture chinoise. Car les ondes scalaires, bien avant d'être découvertes par Nikola Tesla, portaient un autre nom, le qi. Cette énergie reliant tout ce qui compose l'univers, ce principe vital capté par les chakras et rémis en direction des méridiens jusqu'à la moindre de nos cellules. Bref, toutes ces technologies monnayables ne doivent pas nous faire oublier qu'elles se contentent d'appliquer indirectement un système de reprogrammation dont notre énergie mentale est capable tout seule au départ. La première machine à ondes scalaires, c'est nous-mêmes. Il s'agit bien que nous ayons, outre la faculté d'agir sur les cellules d'autrui, un pouvoir d'autocorrection sur nos propres pathologies. Tant qu'il subsiste des cellules valides dans notre organisme, elles ont la capacité de réinformer leurs consœurs malades. Pour peu qu'elles perçoivent que leur développement cancéreux, loin d'être un processus d'expansion naturelle, met en péril l'ensemble de l'organisme, d'où l'urgence pour elles de s'autodétruire, comme le générateur de mails les incite à le faire. Bien sûr, il ne s'agit là que de perspectives qui ne sauraient justifier le refus ou l'interruption de traitements classiques. On le comprend. On n'est pas toujours, hélas, le meilleur combattant ni le meilleur négociateur sur son propre terrain. Et puis, il ne suffit pas de croire en notre pouvoir mental pour lui permettre d'agir. Sinon, tout le monde serait miraculé. Nos ondes scalaires ne sont qu'un vecteur. C'est à nous qu'il appartient d'y introduire une intention. Et comment, et laquelle, et sous quelle forme? Les 7000 guérisons inexplicables recensées par les médecins à Lourdes, dont 69 seulement homologuées par l'Église qui réclame, outre les preuves scientifiques du miracle, des conditions draconiennes au niveau de la spiritualité des bénéficiaires. Eh bien, ces guérisons sont-elles le produit d'une intention décuplée par la foi? La question est posée. De manière plus prosaïque, certains physiciens athées attribuent ces rémissions définitives à un effet secondaire de la prière, la conjugaison des ondes scalaires avec la résonance de Schumann. Leurs arguments, d'une part, le rythme cérébral d'une personne en prière chute dans les ondes alpha autour de 8 Hz, ce qui la fait aussitôt entrer en résonance avec la fréquence de Schumann, ces 7,83 Hz sur lesquels vibre l'ensemble de notre planète. D'autre part, le fait de joindre nos mains pour prier les transforme en antennes naturelles, créant un champ scalaire de grande puissance. Des conditions énergétiques idéales qui, associées à la ferveur collective d'un lieu saint baigné d'amour, d'espoir, de solidarité, peuvent contribuer à ces régénérations spontanées de fonctions et d'organes constatées par le Comité médical international de Lourdes. Mais les convictions religieuses parviennent rarement à neutraliser nos préjugés rationnels. Le plus souvent, notre conscience analytique doute. Alors, elle a besoin d'un leurre. C'est l'effet placebo, dont plus aucun scientifique aujourd'hui ne conteste la réalité. J'avale une simple pastille de sucre que le médecin me présente comme un antibiotique et mon organisme en fabrique les effets, probablement par le biais des ondes scalaires. Au cogito de Descartes, « je pense dont je suis », répond ainsi, en le complétant, le credo de l'énergie pensive. « J'y crois, donc cela se fait ». Un dernier mot sur la résonance de Schumann. En 2011, le professeur Luc Montagnier, poursuivant les travaux de Jacques Benveniste, a démontré que nos cellules communiquaient entre elles à distance, même isolées les unes des autres dans des lieux éloignés, grâce à une fréquence transmise par l'eau. Une fréquence à haut pouvoir informationnel, capable de régénérer des séquences ADN endommagées. Une fréquence qui n'est autre que la fameuse résonance de Schumann, c'est-à-dire 7,83 Hz. Cette vibration qui nous connecte à tous, ce qui vit sur Terre a une limite, cependant, elle n'est émise qu'au niveau du sol. On a découvert que son absence est la cause du fameux mal de l'espace dont souffrent les astronautes. Pour éliminer cette pathologie, la NASA a dû équiper les capsules spatiales d'un générateur de résonance Schumann. Autrement dit, si un jour l'homme détruit sa planète, chose bien sûr, que personnellement je n'envisage pas, sa technologie lui permettra d'aller vivre sous d'autres cieux, mais pas sans la fréquence de la Terre, celle de 7,83 Hz. Étonnant, non ? On fait une petite pause musicale. Petite histoire insolite de Olivier Delos, le frelon. Plus tard ce dimanche, lorsqu'il songea à la série de faits étranges s'étant succédés, René se souvint avoir écrasé un frelon chez sa mère en fin d'après-midi. Il avait abîmé, mais pas vraiment tué. L'insecte amoché restait entre la vie et la mort. René s'était dit que ça n'avait pas d'importance. C'était puéril de chercher à s'assurer qu'un pareil animal était mort. Il avait laissé là, par terre, à demi déchiqueté, quoique remuante encore. C'était au moment où René quittait sa mère. Il ne la voyait pas suffisamment. Il ne venait pas assez souvent. Sa mère le disait. Mais il savait que c'était vrai. Il avait trouvé vieilli, d'ailleurs, depuis qu'il ne l'avait pas vue. Elle approchait des 80 ans. Lui, René, en avait 40. Il venait de l'embrasser. Il lui disait adieu. Il était sur la terrasse et tout d'un coup, ce frelon. Un insecte énorme, noir, avec des reflets bleus sur son corset luisant. Un insecte d'une taille impressionnante, comme on en voit parfois début juin. René avait dit à sa mère, « Attends, je te débarrasse de ça. » Il était rentré pour prendre un journal. L'insecte se collait, se cognait à la vitre carrée du toit. Il ignorait avec obstination la porte grande ouverte pourtant. Mais avec cette panique des animaux qui se sentent traqués, menacés, les minoptères avaient perdu tout souvenir de l'endroit par où il avait pénétré. Il cherchait sans répit, au ras de la vitre fermée du plafond, une issue qui n'existait pas. Avec son journal, René avait réussi à l'en décrocher. Il avait fait choir la bestiole et, tapant sur elle alors, il avait cherché à l'écrabouiller. Il savait combien les vieilles personnes sont sensibles aux piqûres de ces saloperies. Il n'avait pas voulu exposer sa mère à cela. Elle était trop maladroite maintenant pour seulement monter sur une chaise. Elle n'aurait pas eu raison du frelon. René avait bien vu que l'insecte n'était pas mort. Mais il avait renoncé tout d'un coup, étant rentré déposer le journal. Il n'avait pas voulu paraître ridiculement sensible en s'efforçant de soustraire l'animal à son agonie. Un peu plus tard, sur l'autoroute, il roulait à 130, René eut une défaillance. Oh, un quart de seconde. Mais les quarts de seconde sont vite fatales à cette vitesse. Il voulut doubler depuis la voie médiane débordée sur l'axe le plus rapide. Il n'avait pas vu l'auto arriver derrière qui avait entrepris de dépasser également. Un violent, aigu et très réprobateur coup de klaxon rabattit René sur la voie centrale. La colère, pour ne pas dire la rage de ce klaxon derrière, écorcha longtemps ses oreilles et le dissuada de tenter tout dépassement jusqu'au relais, pourtant encore lointain, où il avait décidé de faire une halte. Ensuite, en quittant le restaurant autoroutier, la première chose que vit René dans sa voiture sur le parking, ce fut un frelon. De nouveau. Ouais, un frelon. Il avait laissé la vitre entrouverte. Trop peu pour glisser une main, mais assez pour que pénètre un insecte. Agacé, René ouvrit les deux portières à l'avant. Il alluma une cigarette. Il attendit que l'intrus eût vidé les lieux. C'est parce qu'il fit cela, c'est-à-dire s'attarder, que la fille se précipita sur lui. Il était sûr que ça allait se faire. Elle n'avait pas arrêté de chercher à le prendre à témoin au cours du repas. À l'évidence, elle avait un problème de mitoyenneté, de limite avec un voisin, là-haut dans le bourg. C'est de quoi elle n'avait cessé d'entretenir son interlocuteur, son vis-à-vis, à la table. Un homme corpulent et au crâne dégarni, qui manifestement, elle avait chargé de régler son affaire. Elle n'avait pas arrêté de gueuler en s'adressant à ce type. Comme si chacun devait être au courant de cette histoire de ruelle commune passante par laquelle le voisin, là-haut, lui interdisait de sortir son cheval. René détestait ce genre d'excité. Les allumer de la sorte, vous jetant leurs problèmes à la tête, attendant de vous un vague acquiescement. Non merci, ce n'était pas son genre. Paradoxalement, il avait le chic pour se fourrer dans leurs pattes. S'il y avait un accident au carrefour, un bruyant froissement d'ailes, sûr que ça se passait juste sous son nez, alors qu'il s'apprêtait à traverser. Si deux zigotos en venaient aux mains dans un bar, se levant tout d'un coup pour se battre et hérissés comme des coqs, ça se passait très précisément comme ici, à la table à côté. En fait, il était une victime désignée pour ces situations. Le sort lui envoyait sans compter toutes les tribulations possibles en l'espèce. Ça avait été encore pire là au restaurant. La fille n'avait pas cessé de le regarder en donnant de la voix, à croire que c'était après lui, René, qu'elle criait. Dès le début, elle avait attendu qu'il prenne parti. Il s'y était fermement refusé. Il avait fini par piquer du nez dans son assiette. Alors elle avait ouvert les hostilités. Elle avait mis la gomme. Il lui fallait un témoin dans cette affaire de limite de passage. Mais les Français sont de tels pétochards. « Vous voulez que je vous dise ce que sont les Français ?» Elle avait regardé René de façon provocante. « Détente, voilà ce que c'est, détente, point final. Tout le monde dans ses petits chaussons. Et c'est comme ça qu'on voudrait que marche un pays ?» Imbuvable. René n'avait dû son salut qu'au sacrifice de son dessert, pourtant apporté par le serveur. Il lui avait demandé la note, avait insisté pour payer. Il avait fait son deuil d'un café également. Et au moment d'entrer dans la voiture, il avait vu... un frelon. Il n'avait pas voulu reproduire la même scène que sur la terrasse de sa mère. Avec irritation, il avait ouvert les deux portières pour que l'insecte décampe. Ça avait pris 10 secondes. 10 secondes pendant lesquelles la fille avait déboulé. Elle était arrivée hagarde et échevelée. Frémissant, René avait noté combien elle était rouge, boudinée. Elle faisait de grands gestes en aboyant. Dégoûtée, il la voyait attirée d'un short rose pâle sous son bustier jaune canari. Révulsante, elle offrait l'aspect d'un sorbet à la vanille et d'un sorbet à la fraise dégoulinant l'un sur l'autre. Hystérique, elle s'en prenait à lui. Elle réclamait quelqu'un pour faire établir ce constat, sans pouvoir placer un mot. Il était trop estomaqué pour le faire. Renée comprit que l'homme avec qui elle avait dîné était un huissier. Elle avait l'homme de loi, il lui fallait le témoin. Elle invectivait Renée parce qu'il aurait pu être ce tiers et qu'il se dérobait. Le Français était des pédales, lui comme des autres. Même pas capable quand il voit une fille en détresse au bord de la route de venir changer sa roue, sauf naturellement s'il compte pouvoir la sauter. Frémissant de dégoût, il voyait les bourrelets de la fille remuer à la taille, une folle réellement, qui prétendait pouvoir l'accuser de non-assistance à personnage en danger. En danger, oui, car si son affaire n'aboutissait pas, elle avait l'intention de se suicider. Il désespérait de se sortir de ce mauvais pas, ayant renoncé à s'engouffrer dans sa voiture dont elle l'aurait probablement retiré à coups de poing. Lorsque, par miracle, l'huissier surgit, accompagné d'un serveur. Tous deux saisirent par le bras la fille proche de la crise de nerfs et l'entraînèrent vers le haut. René l'entendit un moment encore, mêlant tout dans l'incohérence de ses vociférations. Le voisin, le cheval, la loi et ceux qui n'ont pas de couilles au cul. René avait pâli. Un terrible sentiment d'injustice, de fierté froissée et piétinée lui inspirait de remonter, de demander à la fille de s'excuser. De s'excuser et s'humilier devant lui à cause de l'esclandre produit. Mais les petites lâchetés de la vie, qui dans certaines circonstances correspondent à de sages élans, lui dictèrent de s'asseoir à son volant, de partir en haussant les épaules, quoiqu'en serrant les dents. Une demi-heure plus tard, il entrait en ville. Il sentit tout de suite, bien avant d'arriver au centre, la tension régnant dans la cité par cette trop chaude soirée de juin. La nuit semblait avoir renoncé à s'installer. Le temps était de plus en plus lourd, la sueur perlait aux tempes. Il y avait une électricité épouvantable dans l'air. Pour comble de malchance, un match venait de se terminer quelque part et les supporters envahissaient le cœur de la ville. Rue Perlot, René crut ne pas pouvoir se dégager des groupes de plus en plus compacts. Des cornes assourdissaient, embouchées sans répit. Deux hurluberlus tapèrent sur le capot de voiture et un autre s'assit dessus. À la fin, René arriva chez lui. Il avait besoin d'un bon bain. Besoin, avant cela, de s'allonger 10 minutes. Il créerait un courant d'air. Il n'en pouvait plus. Son entrée dans la courette fit s'élever une myriade de moustiques et de moucherons au-dessus de l'assiette du chat, assiette dont le contenu s'était gâté. Mimine avait dédaigné sa pâtée. René trouva quelque chose de déplaisant dans la suspension des insectes, montant et ne montant pas à la fois au-dessus de la croûte formée. C'est alors que la stupéfaction, l'incrédulité, quelque chose comme un violent rejet, le firent s'immobiliser tandis qu'il tâtait encore ses poches. Ses clés. Les clés. Il avait oublié les clés de la maison chez sa mère. Aucun doute. Inutile de chercher. C'était ça. Il savait très bien où se trouvaient ses clés. Ça lui était revenu avant même qu'il enfonce la main dans sa poche. Il avait laissé les clés chez sa mère. Ça s'était produit au moment où il avait voulu neutraliser le frelon. Il avait le trousseau à la main à ce moment-là. Un trousseau autre que celui de la voiture restait quant à lui sur le tableau de bord. Mais ainsi qu'il arrivait souvent, René avait à la main des clés de son domicile à cet instant précis. Pour chasser le frelon, il les avait déposées sur l'un des nombreux pots de la terrasse, un pot juste à sa hauteur, à côté. Il avait voulu avoir les mains libres pour tuer cette horreur de 5 cm se heurtant au carreau du toit. Il était entré chercher un journal. Ensuite, il avait bataillé avec le frelon. Il était parvenu à le déséquilibrer, à le faire choir sur le sol, et il avait tapé dessus à plusieurs reprises pour l'écraser, le tuer. Sans y parvenir, d'ailleurs. Les peaux trop serrées ne lui avaient pas permis d'agir commodément avec son journal. Abandonnant le frelon, il était rentré déposer ce quotidien. Il avait embrassé sa mère, vérifié que le frelon était devenu inoffensif. Il avait refermer la porte de la terrasse et oublier les clés dans le pot. Il était évident que René ne pourrait pas rentrer chez lui, désormais les volets étaient tirés. Il possédait bien un double des clés, mais le double était à l'intérieur. Il en existait un autre, chez sa mère, là encore. Merde, merde, s'exclama-t-il plusieurs fois. Mais il pouvait bien pester, il n'y avait pas de solution. Il n'y en aurait qu'une, appeler un serrurier. Néanmoins, il répugna à faire venir un ouvrier. Il était 10 heures du soir, un dimanche. L'ouvrier demanderait une fortune pour ce déplacement. Pareillement, dormir à l'hôtel paraissait infaisable à René. Il avait besoin de ses affaires demain matin tôt pour aller travailler. Il finit par se résigner à l'idée de retourner chez sa mère. Ce n'était qu'à 120 kilomètres au fond. Par l'autoroute, ça demanderait 1 heure. L'idée même de recommencer tout ce chemin par un soir survolté soulevait le cœur de René. Cependant, il se voyait contraint d'en passer par là. C'est à ce moment-là qu'il songea au frelon. Sale bête. Tout venait de lui. Revenir chez sa mère, soudain, parut moins fastidieux à René. Au moins, arrivé là-bas, il pourrait écraser, piétiner jusqu'à plus soif l'insecte cause de tous ses soucis. Il repartit. Il n'y avait pas d'alternative. Il refit tout le trajet, excédé, râlant contre lui-même et contre les situations tordues dans lesquelles il se fourrait toujours. Il conduisait avec colère, avec hargne. Il commit plusieurs impairs. Il n'arrêtait pas de souffler. Pour tout arranger, l'orage éclata à mi-parcours. Épuisé, malheureux, conscient de boire le calice jusqu'à la lie, il n'arriva qu'après minuit. La pluie l'avait obligé à ralentir. Il trouva le moyen de se tremper généreusement dans l'intervalle entre l'auto et la terrasse, tant l'averse tombait serrée. Enfin, il fut dedans. Il avait ouvert avec précaution. Il faisait toujours une température de serre ici, en dépit de la pluie d'or. Agissant comme un voleur, pour ne pas réveiller sa mère, il piocha son trousseau dans le pot où il avait posé en fin d'après-midi. Il chercha le frelon alors. Ses yeux s'étant accoutumés à l'obscurité, il finit par le voir. L'insecte n'était pas à sa place première. Bien qu'ayant les viscères ouverts, il avait réussi à se traîner à un autre coin de la terrasse. Un sillage rougeâtre attestait de son chemin de croix. René alors obéit à une impulsion, se saisissant d'un couteau à lame grossière qui était là sur une étagère, ustensile non tranchant mais parfait pour sa mère, lorsqu'elle avait à dépoter une fleur. Il s'accroupit devant l'insecte et avec une joie irraisonnée, un sadisme de gosse, il lui sectionna la tête délibérément et complaisamment. Il envoya promener cette tête loin du corps, ensuite avec la lame. Acte le soulagea. Il ne doutait aucunement qu'une force maligne eût pris place dans un secte disproportionné. Sans avoir jamais fait réellement sienne la croyance que des entités s'incarnent dans les animaux, René sentait que cette bestiole de trop grosse taille avait été dotée d'un pouvoir inconnu, trouble et mauvais. Il était heureux de l'avoir neutralisé. Posant le trousseau sur le siège passager, René reprit la route, mais qu'il se sentait épuisé à ce stade. C'était la veille au soir qu'il avait décidé de consacrer ce jour de fête des mères à sa vieille maman. Il lui offrait si rarement ce genre de choses. Il avait fait 120 kilomètres alors ce samedi soir pour passer avec elle la journée du lendemain. Ce dimanche, il avait encore roulé avec la vieille dame. Elle sortait peu, se plaignait d'être toujours dedans. Il avait conduite sur la tombe de son père. Rien ne pouvait lui faire plus de plaisir. C'était à 45 kilomètres de là. 45 plus 45. Il avait somme toute effectué 100 kilomètres dans l'après-midi. Si l'on tenait compte qu'au lieu de rentrer ensuite, il s'était promené encore. Il avait amené voir un coin de rivière auquel elle tenait. Puis il y avait eu les 120 kilomètres de ce dimanche pour rentrer. Il y avait eu la folle du restaurant. Les supporters hurlant dans la rue, bloquant le passage. Déjà à ce moment, il était vidé. Se rendant compte qu'il avait oublié les clés, il avait opté pour revenir les chercher, 120 kilomètres de plus. Et maintenant, il y avait ce second retour. Il entamait à peine. Il était à bout. Se trompant dans ses calculs, la visibilité mauvaise l'obligeant à se concentrer sur la route, il finit par arriver à la conclusion qu'il avait parcouru 460 kilomètres depuis la veille au soir, et il en restait encore une centaine devant lui. C'est à cet instant que la voiture échappa à son contrôle, soudain, peu avant l'entrée sur l'autoroute qu'il était impatient de retrouver. Il y avait là une descente dangereuse, un virage en épingle où le bitume glissait. Et René conduisait trop vite. Ses réflexes n'étaient pas les mêmes. La pluie brumeuse, d'après l'orage, achevait de fausser son appréhension des choses. La voiture lui glissa des doigts, longuement, sur 100 mètres. Les yeux dilatés, il avait étouffé un cri. Il poussa un juron. Le véhicule mordit sur le vide. René, en pleine absurdité, tenta encore de le redresser. Mais l'auto dévalait la pente en rebondissant comme un jouet miniature, jeté à toute volée par un gosse en haut d'une falaise. Lorsque les témoins découvrirent la voiture, le lendemain, puis lorsque la police enquêta, chacun s'étonna de la manière inconcevable dont le corps du conducteur était abîmé. Car ce conducteur avait accroché sa ceinture de sécurité malgré tout, en dépit de quoi, et aussi inexplicable que ce fût, il avait à demi traversé le pare-brise. La tête avait été sectionnée. Et, chose pénible à voir, affreuse même pour les professionnels, s'affairant, elle avait roulé assez loin du lieu de l'impact sur les rochers. Exactement comme si quelqu'un, d'un implacable coup de hache, avait séparé cette tête du tronc et l'avait projetée en même temps loin du reste du corps. Serait-ce le coup du frelon vengeur? Merci de votre attention. Je vous dis à toutes et à tous, bien à la semaine prochaine et que grand bien vous fasse. Ciao, ciao.
petits doigts à lui à couper. J'entends la chanson sereine du rossignol est joli. Ah mon Dieu, que de souffrance que j'endure cette nuit. Tu en souffriras.
Good.